Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement. Et merci si vous êtes là depuis le début. À suivre Eva Rock pour son zapping du lendemain spécial campagne. Et Bertrand Chameroy pour son écran de veille spécial ville, en l'occurrence la ville de Nice. Notre invité, c'est l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt qui s'est lancé un défi complètement dingue. Raconter l'histoire de l'humanité sous la forme de 8 romans depuis 8000 ans. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu dans 8 minutes. Et puis dans les indispensables, retour sur la remarquable, le mot est faible, carrière du duo Daft Punk. Angèle Châtelier va faire leur rétrospective. Et puis une série d'animations qui dénonce les dérives de la société américaine. C'est Margot Barallon qui nous en dira plus. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour Philippe Vandel.
D'un mot, vous avez un point commun en plus d'être ici tous les jours dans Culture Média, vous êtes niçois tous les deux.
Tous les deux, oui. Exactement. Et que, oh Dieu, que Nice nous manque en ce moment.
C'est vrai. Et justement, c'est l'heure de votre écran de veille. Et où vous nous emmenez-vous, Bertrand?
Eh ben, je vous le donne en mille, à Nice. Eh oui, parce que je ne sais pas vous, mais me concernant, avant d'aller voir un film, enfin du temps où on pouvait, je regarde toujours la bande-annonce avant d'aller au cinéma, histoire de me préparer mentalement. Alors pour savoir ce qui nous attend, j'ai donc regardé ce qu'il se passe à Nice. Hier, le préfet des Alpes-Maritimes tenait une conférence de presse. Alors nous, en Ile-de-France, notre préfet, c'est Didier Lallement, Dédé la déconne. Bah, c'est pas le dernier, hein, avec son air bonhomme et ses yeux malicieux qui respirent la fiesta. Eh bien, dans les Alpes-Maritimes, ils ont mieux. Ils ont un préfet VIP, oui, c'est une star. Tendez l'oreille.
Mais on a pu se rendre compte, en examinant les résultats de ces tests, qu'il pouvait y avoir, l'ARS vous le confirmera, quelques surprises parfois.
Mais si, mais cette voix, cette intonation, attendez, mais le préfet des Alpes-Maritimes, c'est Fabrice Lucchini.
Mais oui, ça...
Je pense que c'est nécessaire, parce que ne pas porter le masque, quand vous voyez ces familles, et c'est bien d'être sur la promenade des Anglais, regardez la mer, et que vous voyez par ailleurs d'autres personnes qui passent à côté de vous, qui n'ont pas le masque.
C'est Lucchini. Alors, est-ce par pudeur ou par coquetterie, toujours est-il que lorsqu'il enfile son képi dans les Alpes-Maritimes, il se fait appeler Bernard Gonzalez. Et le préfet Gonzalez a une façon de parler bien à lui, comme Eva Rock. Si vous êtes de fidèles auditeurs de Culture Média, vous aurez noté qu'Eva ne dit pas Disney, mais Disney, par exemple.
C'est vrai. Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai. Ouais. Mais on t'aime quand même.
Ouais, merci.
Eh bien, le préfet Gonzalez, c'est pareil, il nous fait découvrir de nouveaux mots.
L'ensemble de ces commerces concernés par cette mesure seront autorisés à maintenir une activité de vente à emporter sur commande, dite de click and collect.
Le click and collect. Alors oui, Anis, tu commandes en ligne et c'est Colette qui te file ton paquet. Je la connais, elle est super sympa, Colette.
Moi aussi.
Et je la salue parce qu'elle a beaucoup de boulot en ce moment, pleine bourre, ouais. Ma coco.
Moi aussi, je salue Colette.
Et autre particularité niçoise, la ville a été fournie en vaccin par un labo différent du reste de la France.
Le ministre des Solidarités et de la Santé avait alloué une première dose au département de 3500 doses de vaccins Pfizer supplémentaires.
Le fameux vaccin Pfizer. Oui, ce matin, rien m'amuse. Hein. Je suis tellement à bout qu'une mauvaise prononciation suffit à faire mon bonheur. Il faut vraiment tout miser sur les joies simples. En ce moment, c'est un conseil d'amis que je vous donne. Mais revenons au sujet. Hier, le préfet Gonzalez a fait des annonces.
Et dans ce cadre, des mesures applicables sur la frontière franco-italienne.
Eh bien, parmi les mesures applicables, il y a évidemment celle-ci.
Et je pense qu'il faut, oui, mettre en place une mesure de confinement, confinement partiel.
17 ans après, c'est donc le grand retour de l'émission de télé-réalité d'enfermement Nice People.
Une ville de rêve, Nice. Ils sont 334 000. Malgré le beau temps et la mer, ils vont devoir vivre sans sortir de chez eux. 24 heures sur 24, 2 jours sur 7, jusqu'au 12 mars. Nice People, quand se terminera ce merdier? C'est pas vous qui décidez.
Mais ne faisons pas trop les malins parce qu'il se pourrait bien que d'autres adaptations locales voient le jour.
Merci beaucoup, Bertrand Chameroy, mais c'est inapplicable. Eva, on passe au programme du soir.
J'ai peur de... Ouais, je vais faire gaffe à mes prononciations.
Ouais. Mais on vous comprend. Vos yeux se sont tournés, Eva, vers France 2. C'est une soirée spéciale?
Exactement, parce que faute de salon de l'agriculture annulé, France 2 rend hommage aux agriculteurs avec un premier documentaire ce soir intitulé « Nous paysans », signé Fabien Béziat et Agnès Poirier. Récit d'une épopée de ceux qui ont nourri le pays depuis des siècles. Récit porté par la voix de Guillaume Canet. Et au gré des archives et des témoignages, se dessine une sociologie à la fois de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, comme le raconte cette jeune agricultrice évoquant sa grand-mère.
Moi, j'étais vraiment dans une quête de la modernité à fond. Enfin, le chauffage électrique m'allait très très bien et me caillait en fait dans cette baraque. Déjà, j'y allais vraiment en reculant. Et après, je l'ai trouvé super dur. Enfin, je l'ai trouvé pas très drôle, quoi. Il fallait faire à manger, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Une rudesse, en tout cas, quand t'es enfant. Celui qui s'assoit, c'est celui qui est feignant. Tu vois, elle pouvait dire ce genre de choses, quand même.
Même quand on épluche les patates, disait-elle aussi. Oui. Il fallait rester debout.
C'est trop touchant.
La suite, ce sont deux guerres mondiales qui vont détruire le monde paysan et enclencher un exode rural bouleversant l'équilibre entre ville et campagne. Dans les années 60, la modernisation va métamorphoser les champs. Il faut produire toujours plus. Et les paysans deviennent des agriculteurs chefs d'entreprise. Mais alors, à quel prix?
Après la guerre de 1945, il y avait 9 cheminées qui fumaient. Il y en a une qui fume aujourd'hui. Et il y en a une qui fume avec une succession professionnelle. C'est mon fils. Mais quid de son propre fils? On ne sait pas, mais vous vous rendez compte? En 50 ans ou 60 ans, on est passé de 9 à 1.
Alors la désertification des campagnes se poursuit au point qu'il est difficile de trouver des repreneurs pour les fermes, comme le prouve un autre documentaire qui est programmé en deuxième partie de soirée. Alors c'est le cas de Jean-Yves, il vit en Bretagne, il a une ferme, il ne sait pas à qui la transmettre. Il a trouvé deux citadines, Audrey et Lauriane, prêtes à reprendre son exploitation labellisée bio. Elles n'ont jamais travaillé à la ferme et Jean-Yves va les accompagner pendant un an. Mais les deux jeunes femmes savent et comprennent très vite que ça sera compliqué.
Il y a des parcelles, il ne me laisserait pas aller avec la barre de coupe, même si je sais comment ça fonctionne, etc. Mais comme je ne connais pas les parcelles, lui, il sait où il y a des trous, il sait où il y a potentiellement des souches. Donc, il peut anticiper beaucoup plus facilement que nous.
Comment on va faire l'année prochaine?
L'année prochaine, on va faire le tour des parcelles à pied avant, on va regarder. Et puis, de toute façon, on va en avoir des casses. Hein. On n'y échappera pas, on ne fera pas une carrière sans casser la barre de coupe. Hein. Donc, bon... on fera comme tout le monde, on apprendra sur le tas.
Et voilà, et c'est elle aujourd'hui qui s'occupe de cette ferme. C'est un très joli documentaire sur la transmission. Soirée spéciale agriculture, donc avec Nous Paysans à 21h05, suivi de l'installation.
Merci beaucoup Eva Roch, merci beaucoup Bertrand Chamorrois. Demain vous faites ici, vous voulez ajouter quelque chose Bertrand?
Oui, petit message, il pensait que j'étais le seul à trouver que le préfet des Alpes-Maritimes et le sosie vocal de Fabrice Lucchini, mais je tenais à souhaiter au nom de toute l'équipe un joyeux anniversaire à notre réalisateur Nicolas Souvent. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. C'est grâce à lui Philippe que vous ne ratez jamais un carillon ou que je peux vous faire partager ma passion pour le chant et qu'Eva propose son zapping du lendemain. Alors Nico, on t'aime.
C'est vrai.
Bon anniversaire. Très joyeux anniversaire Nico. Dans un instant, notre invité, l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt. Mais d'abord, les cours d'eau, c'est de la musique, c'est Pomme.
Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel.
Une promesse à la fois.
Les cours d'eau, c'était Pomme sur Europe 1. Et des cours d'eau, il y en a dans le nouveau livre d'Éric Emmanuel Schmitt. Ça s'appelle Paradis perdu. C'est une octologie. Il y a 8 tomes qui vont sortir. Et ça parle de déluge et de l'histoire de l'humanité sur 8000 ans. Culture Média continue. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vondel.
Bonjour Éric Emmanuel Schmitt.
Bonjour.
Vous êtes romancier, merci d'être avec nous. 24 millions de livres vendus dans le monde, également auteur de théâtre francophone le plus joué sur la planète. Une vingtaine de pièces jouées de Berlin à New York en passant par Séoul. Quelques titres de romans, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, L'évangile selon Pilate, Le sumo qui ne voulait pas grossir. Il y a eu des essais, il y a eu des pièces, des contes. Et là vous publiez un roman, peut-être le plus ambitieux, oui certainement le plus ambitieux. Ça s'appelle Paradis perdu, premier tome d'une série de 8, La traversée des temps, c'est chez Albin Michel. Alors l'ouvrage s'ouvre sur une note de l'éditeur. J'avais encore jamais vu ça dans un livre. Et votre éditeur Albin Michel annonce le pitch. Raconter l'histoire de l'humanité sous une forme purement romanesque, entrer dans l'histoire par des histoires, comme si Harari croisait Alexandre Dumas. Normalement, c'est ce qu'on se raconte en comité éditorial. Là, c'est affiché. L'ambition est affichée.
Je crois que mon éditeur tenait absolument à montrer que ce premier tome, qui est suffisant en soi, est en fait simplement la première marche d'un projet. Parce que je pense que il ne faut pas que le projet fasse disparaître chaque roman, parce que ce que j'aime, c'est raconter des histoires et mettre en place des personnages. Mais il y a effectivement un projet fou qui est de...
Parce que là, c'est très ambitieux, parce que Harari, qui raconte l'histoire de l'humanité, qui a fait un best-seller mondial, cet auteur israélien, et puis Alexandre Dumas, qu'on ne présente pas, c'est quand même quelque chose. Alors, en une année, j'ai appris 3 nouveaux mots. J'ai appris quatorzaine, j'ai appris présentiel et j'ai appris octologie. C'est comme une trilogie, mais en 8 étapes. C'est votre projet, raconter l'histoire.
Oui.
Enfin, l'histoire de ce projet. Et ensuite, on racontera l'histoire de l'histoire.
Oui, non, l'histoire de ce projet, c'est que moi, ce qui me fascine, c'est quand je regarde, par exemple, une fourmilière, c'est de me dire, tiens, elle était pareille il y a 100 000 ans. Ou une ruche. Tandis que si on regarde les hommes, à un an près, c'est différent. Regardez entre nous il y a un an et nous aujourd'hui.
Bien sûr, nous n'étions pas confinés.
Donc voilà, nous on est des animaux historiques, c'est-à-dire qui évoluons perpétuellement. Je n'ai pas dit qu'ils progressons perpétuellement, parce que ça justement, on peut bien en discuter. Et donc j'ai voulu essayer de comprendre comment on est arrivé là, à travers une histoire, l'histoire de Noam, qui est un homme qui est né il y a 8000 ans avant notre et qui va être doté d'un fardeau qui est l'immortalité, mais en même temps il est du coup le témoin et parfois l'acteur principal des grands changements, des grandes mutations qui ont fait notre histoire. Donc à travers une histoire romanesque, je peux raconter les lignes de faille, les bouleversements, les révolutions et les évolutions.
Alors ça démarre il y a 8000 ans dans un village lacustre du néolithique. Pour situer, ils ne vivent pas dans des grottes, mais dans des maisons. Il y a déjà des portes il y a 8000 ans. Il y a déjà un premier conflit entre les habitants sédentaires et les chasseurs alentours qui sont nomades. Et il se produit un événement extraordinaire. Enfin, il pleut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça se retrouve dans toutes les légendes et les récits. Il y a le déluge.
Oui. Vous savez, le déluge, nous, on l'a connu pendant des siècles à travers la Bible. Et puis ensuite, on a découvert la légende de Gilgamesh, le texte mésopotamien, puisqu'on sait lire le mésopotamien que depuis les années 50.
Qui remonte à quand, ce texte, Gilgamesh?
Gilgamesh, c'est 2500, je crois, à peu près.
Avant Jésus-Christ.
Avant Jésus-Christ.
Donc 4500 ans avant maintenant.
Oui, et donc on se rend compte qu'en fait, ces textes-là sont sans doute des traces de quelque chose qui s'est passé. Et la science vient de poursuivre, je dirais, le roman de la Bible en tout d'un coup, en donnant une base historique. On s'est rendu compte dans les années 1990 que la mer Noire, en fait, a sans doute été un lac qui est devenu une mer quand la Méditerranée a monté de plus d'une centaine de mètres lorsque la Terre s'est réchauffée. Elle est montée plus d'une centaine de mètres. Elle a passé ce qui est aujourd'hui le détroit du Bosphore, mais qui n'était pas un détroit à l'époque. Et elle s'est déversée dans la plaine ukrainienne et elle a formé la mer Noire. Donc il y a eu, non pas un déluge universel, comme le racontent les textes, mais un déluge à un endroit précis qui était justement un endroit vraiment habité par les hommes.
Comment vous avez travaillé avec quelle documentation? Par exemple, page 140, vous racontez les cérémonies de mariage et vous dites, lors des cérémonies de mariage, on ne distribuait pas des cadeaux aux mariés, mais aux invités. Comment vous le savez? C'était il y a 8000 ans.
Bah écoute,
vous l'avez inventé?
Alors, Non, la plupart du temps, je m'appuie vraiment sur des recherches. Mais vous savez, l'histoire de la préhistoire, elle est difficilement documentée, puisqu'évidemment, par principe, on n'a pas de texte, donc il y a des choses qu'on ne sait pas.
Non, mais il y a des choses qu'on sait. Par exemple, on sait si les enfants étaient enterrés avec les parents, oui. on sait à quel moment il y a des conflits, parce qu'on voit les crânes fondus, voilà. Donc on sait ce qui se
passe. Il y a des choses qu'on sait par l'archéologie, mais une grande partie de la préhistoire, enfin de notre connaissance de la préhistoire, est faite aussi par anthropologie et par ethnologie, c'est-à-dire en comparant avec les civilisations, par exemple amérindiennes, enfin des civilisations qui n'ont jamais été touchées par notre culture.
Compris.
Et donc il y a un mélange des deux.
Voilà, parce que c'est aujourd'hui l'anniversaire de notre réalisateur, donc il nous doit des cadeaux. Vous restez avec nous, Éric-Emmanuel Schmitt, Paradis perdu. C'est le premier de 8 tomes qui arrive, et pour mieux vous connaître, puisque vous cernez l'homme, pour mieux connaître notre invité, c'est Hélène Manarino qui arrive dans un instant. Ce sera le portrait inattendu. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Avec Éric-Emmanuel Schmitt, romancier, qui s'attaque, il n'y a pas d'autre mot, à peut-être son chef-d'œuvre. Paradis perdu, c'est le premier tome d'une série de 8, La traversée des temps. Il raconte l'histoire de l'humanité à travers un seul homme. Ça part du néolithique à aujourd'hui, sur 8000 ans. Je vous présente Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Bonjour. Et elle aussi, elle a beaucoup travaillé.
Oui, bonjour Éric-Emmanuel Schmitt. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, Plume d'Aigle, oui, c'était l'un de vos surnoms, nombreux surnoms.
Déjà le regard d'Éric-Emmanuel Schmitt.
Ah, c'est drôle, je ne m'en souvenais plus, mais vous avez raison.
Je vous propose de raconter vos paradis perdus, mais aussi vos paradis retrouvés. Bref, baladons-nous et commençons justement par vos paradis d'enfants. Émerveillée par les personnages de Walt Disney, la télévision chez vous était interdite pour vous avant l'adolescence. Donc vous aimiez écouter des émissions de radio, la tribune de l'histoire, les maîtres du mystère. Votre bonheur était aussi lorsque vous mangiez un poulet frites, votre plat préféré. Attention, il ne fallait pas vous parler de petits pois. Alors Éric-Emmanuel Schmitt, votre joie, c'était évidemment l'écriture. Vous écriviez sans cesse, sans faire lire vos œuvres évidemment. Écrire avec comme fond musical les chansons françaises écoutées par vos parents. Brassens, Ferrat, Brel. Bon élève, oui, vous collectionniez quelques retards en cours, mais vous trouviez des excuses assez dingue quand même. Insomnie récupérée, défaillance mécanique du réveil.
Ah oui, mais attendez, c'était vous qui signiez vos propres mots d'excuses ?
Oui.
Ah non, chance.
En accord avec mes parents.
Ah d'accord, double chance.
Qui s'amusait beaucoup de ce que j'inventais.
Triple chance.
Doté d'une grande imagination qui a pu se remarquer dans la comédie musicale jouée par le club du lycée que vous avez écrite. Dans cette pièce, il y avait une satire assez drôle sur votre entourage à l'école. Mener la cadence, cela vous va bien. Vous auriez aimé être chef d'orchestre d'ailleurs. Celui qui a finalement trouvé votre paradis et votre voix, c'est Monsieur Barnet, votre professeur de lettres, qui vous a permis de franchir un cap dans l'écriture au collège. Et aujourd'hui, il achète régulièrement vos livres.
Ça y est, il a quitté ce monde. Mais oui, ça a été... on a tous des grands profs comme ça dans notre vie. Moi, je l'ai eu en quatrième.
Ouais.
Et ce professeur m'a diagnostiqué écrivain. C'est le premier qui a dit « mais c'est un écrivain né ». Et chaque fois, il prenait mes compositions françaises et il les lisait dans toutes les classes. Ouais. Donc il m'a donné un capital de confiance extraordinaire. Il a forgé mon destin.
Et vous en avez les larmes aux yeux, Éric-Emmanuel Schmitt, Hélène.
Enfant, ado, discret, votre principal confident, c'était votre char Socrate. Vous avez dû sûrement lui raconter ce souvenir lors des vacances au ski.
Ouais.
Il faisait pas très beau, vous étiez pré-ado et avec votre sœur, vous décidez d'aller skier que tous les deux, sans les parents. Mais mauvais temps, neige, brouillard et 45 minutes bloquées sur un télésiège. Vous étiez assez inquiet quand même.
Ah oui, ouais. J'ai gardé une phobie des télésièges. D'ailleurs.
Il s'est passé quoi alors ? Parce que là, on est dans les bronzés fonds du ski. Ça se termine comment ?
Ça se termine que ça se débloque et que j'essaye d'éviter les télésièges, comme les ascenseurs. J'étais coincé 4 fois dans les ascenseurs. Désincarcéré 4 fois. J'ai les marabouts, je crois, quand j'entre.
Donc, ne jamais prendre l'ascenseur avec Éric-Emmanuel Schmitt.
De toute façon, je ne le prends pas.
Très bonne info.
Alors, il vous arrive souvent des petites choses en vacances, comme plus récemment lors d'un séjour en Grèce. Vous avez loué une moto pour deux avec un ami et dès le premier virage, elle était pliée. Curieux de tout, votre paradis était aussi d'aller au cinéma à Besançon, où était sorti Vivement Dimanche de Truffaut. Vous passiez vos dimanches à regarder Fanny Ardant. Éric Emmanuel Schmitt, passons à présent à vos paradis retrouvés, vos paradis d'aujourd'hui. Ça commence par vos petites habitudes le matin, discuter avec vos chiens, manger un œuf au plat, du jambon. En ce moment, vous faites attention parce que vous entamez un petit régime. Vous ne mangez pas de 19h jusqu'au lendemain 13h.
Oh, la tête qu'il a faite quand vous avez dit petit régime, c'est pas vrai ?
J'ai passé ma vie à faire des régimes. J'ai perdu déjà 785 kilos. Je devrais être transparent, vous ne me voyez pas.
Mais un régime qui est compliqué car vous ne pouvez pas vous passer de chocolat noir, il faut le dire. Rieur devant tout, devant les gens qui chutent dans la rue. Et oui, ça vous fait beaucoup rire.
Ça, c'est terrible.
Votre univers, Éric Emmanuel Schmitt, il ne faut pas trop le toucher. On peut dire que les choses ne sont pas rangées, mais vous y retrouvez et c'est le principal. Vous êtes quand même tête en l'air. Dernièrement, vous avez perdu vos lunettes. D'ailleurs, les lunettes, c'est ce que vous achetez le plus souvent. Vous êtes aussi sportif. Oui, vous aimez nager, vous êtes fort en informatique, en bricolage, vous adorez la décoration. Vous la faites, vous faites des travaux chez vous en ce moment et c'est vous qui faites tout, votre maison.
Votre... Vous savez tout,
il en revient pas.
Je sais tout. Ouais,
c'est la Stasi en cool.
Éric Emmanuel Schmitt, je ne sais pas la couleur des murs encore, mais.
Non, mais c'est vrai que je peux faire 800 km pour trouver le bon tissu. Le bon poêle à bois, etc. Non, je fais mes maisons comme mes livres.
Vous aimez transformer. Alors Éric Emmanuel Schmitt, vous traversez le temps avec toujours cette même envie, passion, paradis perdu, amour perdu. Avec vous, ce qui est bien, c'est que l'on peut tout retrouver. Vous dites la littérature est le fondement de l'humanisme, mais certains diront Éric Emmanuel Schmitt est l'un des modèles de l'humanité.
Merci beaucoup Hélène Manarino. Merci. Réaction Éric Emmanuel Schmitt.
Ah bah, je suis très touché par ce que vous dites, mais je n'en reviens pas. Je veux dire, vous êtes dans ma poche, c'est pas possible. Je vous transporte depuis des années.
Oui.
C'est incroyable.
Je suis ravie de vous rencontrer. En vrai.
Elle est partout avec vous, sauf dans l'ascenseur. Merci beaucoup, Hélène Manarino.
À demain.
À demain, Hélène. Dans un instant, restez avec nous. Ne ratez surtout pas notre première indispensable, Angèle Châtelier, qui va revenir sur l'immense carrière des Daft Punk, duo mythique, qui vient d'annoncer sa séparation après 28 ans. Il y aura de la musique. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie du romancier Éric Emmanuel Schmitt, Paradis perdu, c'est un roman. Ça fait partie d'une octologie, c'est-à-dire qu'il y aura 8 tomes qui s'appellent La traversée des temps. J'espère que je ne me trompe pas, j'espère que c'est bien le nom de la trilogie et que c'est bien le nom de l'épisode. Je ne me suis pas trompé, j'avais un petit doute. Vous racontez l'histoire de l'humanité à travers un personnage qui s'appelle Noam, qui a cette particularité de romancier d'être immortel, ce qui permet de faire des comparaisons. Évidemment, c'est les lettres persanes, mais à travers l'histoire, en plus des lieux. Il y a une trame romanesque dans votre livre que vous avez inscrite dans le contexte de crise écologiste écolo qu'on traverse au XXIe siècle. Pour quelle raison ? Ça parle déjà d'écologie au néolithique.
Ben parce que justement, je pense qu'on vit un moment historique absolument nouveau où l'homme prend conscience que peut-être il est allé trop loin dans la domestication, l'utilisation de la nature et que peut-être il est en train de créer même l'impossibilité de sa survie.
Mais alors pourquoi avoir mis cet enjeu-là chez un homme du néolithique ?
Ben, il se réveille aujourd'hui et du coup, quand il voit cette angoisse contemporaine et la réalité de ce qui se détruit, il écrit ses mémoires en disant comment en sommes-nous arrivés là. Et c'est pour ça que le premier tome s'appelle Paradis perdu, parce que je décris comment nos ancêtres cueilleurs, chasseurs, étaient très peu nombreux au milieu d'une nature absolument généreuse, consacraient très peu de temps au travail qui consiste à se nourrir. Ils ne travaillaient pas.
Ah bah évidemment.
Ils se nourrissaient, ils se lavaient, c'était fait en une heure, et puis ils pouvaient jouir, rêver, s'amuser, etc. etc. Et tout d'un coup, l'homme invente la sédentarité, et c'est un piège. C'est un piège parce que on va se mettre à travailler, on va diviser le travail, on va se spécialiser, plus personne ne possédera toutes les connaissances alors que on va devenir spécialisé. Et puis, surtout, c'est aussi le patriarcat qui commence, parce que les femmes cueilleuses, chasseuses, vivaient la même vie que les hommes et faisaient peu d'enfants parce qu'il fallait les transporter. Et donc, elles les nourrissaient au sein le plus longtemps possible. Et voilà, il y avait une régulation des naissances. À partir du moment où il y a eu la sédentarité, on a créé le foyer, la femme au foyer. On s'est mis à faire beaucoup d'enfants. L'humanité s'est développée, mais c'était peut-être aussi un piège.
Et la propriété, puisque vous disiez de jouir, il y a beaucoup de scènes de sexe. Il y a parfois des anachronismes dans ce livre, ou alors vous avez pris garde qu'il n'y en ait pas.
J'ai pris garde.
Vous êtes amusé ou pas avec ça ? Par exemple, page 147, seule dans la maison, allongée, maman avait sévèrement picolé.
Ah non, c'est pas un anachronisme. Il écrit aujourd'hui, Noam. Il écrit avec la langue d'aujourd'hui.
D'accord.
Parce qu'il se réveille aujourd'hui dans notre monde et il raconte le passé.
D'accord. Et j'aime bien aussi.
Mais on picolait au néolithique. Hein,
Ouais, avec du vin de myrtille. Je savais pas qu'on pouvait picoler.
Du vin de myrtille, du vin de framboise.
Je l'ai appris grâce à vous. Et j'aime bien cette phrase aussi, page 276. Je dis ça, si vous voulez le trouver. J'ai compris comment Malan Tatra avait obtenu son physique somptueux grâce au confinement.
Ah oui, hein, le mot est déjà là.
Mais oui, mais il est déjà là chez vous, il n'était pas là au néolithique.
Non, mais c'est impossible d'écrire avec la langue du néolithique.
Ça ne m'avait pas échappé.
On ne l'a pas.
Non, je veux dire par là que c'est un mot assez récent.
L'emploi de ce mot est récent.
Enfin, le mot confinement.
Ouais. Il est du 19e siècle.
Et le premier sens, vous le connaissez ou pas? Ça veut dire aller aux confins.
Oui, les confins.
Ça ne veut pas dire l'enfermement. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça, ce n'est pas
d'ailleurs,
du notre sujet.
Ça a même changé là, en 2020, le mot confinement.
Ouais.
C'était ma chronique sur Europe, ma carte blanche de vendredi, où j'expliquais le mot confinement. C'est-à-dire qu'il a pris un sens nouveau. Avant, on isolait les malades. Maintenant, on isole les gens pour qu'ils ne soient pas malades. Donc aujourd'hui, il y a une différence entre isolement et confinement. L'isolement, c'est celui du malade. Le confinement, c'est ceux qui ne sont pas malades.
Il y a des gens qui n'étaient pas isolés, mais qui étaient confinés à l'intérieur même de leur casque. Bonjour Angèle Châtelier.
Bonjour Philippe.
Vous avez vu la transition,
ouais,
on l'a pris hier. Les Daft Punk, ce duo mythique casqué, c'est fini.
Et oui, ils l'ont annoncé dans une vidéo très mystérieuse qui dure 8 minutes où on voit le duo toujours avec leur casque, évidemment sur la tête, se balader sur la plage. Ce sont des extraits de leur film Electroma, mais ce n'est pas vraiment ce qu'il y a à retenir. Ce sont plutôt ces deux dates inscrites vers la fin de la vidéo, 1993-2021. 1993 étant l'année où ils se sont formés. Et puis il y a le nom de cette vidéo, épilogue, qui veut dire la fin d'un discours. Alors ce qui est sûr, c'est que les Daft Punk ont laissé un héritage considérable dans la musique, à commencer par leur tube Get Lucky, forcément.
Emmanuel Schmitt, vous aviez déjà entendu ça?
Oui, je l'avais entendu, mais je ne savais pas que c'était.
Parce qu'en entendant de ce studio, je lui demande s'il aime bien les Daft Punk, et il me dit « J'ai appris leur existence hier soir ».
C'est bien aussi. C'est
ben
bien
oui,
aussi.
Parce que ma belle-fille est rentrée à la maison en me disant « Daft Punk s'est séparé ». Et moi, j'ai dit « De qui ?»
C'est génial. Alors ici, on entend « Get Lucky » qui est extrait de leur dernier album « Random Access Memory » sorti il y a 8 ans. Un album vendu à près de 4 millions d'exemplaires, récompensé de 5 Grammy Awards. Et cette chanson est un indispensable, oui, même si on l'a déjà tous entendu, parce qu'elle marque la collaboration de plusieurs géants. Les Daft Punk tout d'abord, mais aussi Nile Rodgers et Pharrell Williams. Il paraît même que ce dernier a entendu parler des Daft Punk lors d'une fête qu'avait organisée Madonna. C'est quand même vraiment, vraiment un monde.
Alors ça, c'est l'un de leurs derniers tubes cosmiques, mais qu'y a-t-il à retenir, Angèle, de leur discographie d'avant?
Eh bien, il faut bien comprendre que ce qui a fait le succès des Daft Punk, c'est leur capacité à s'être renouvelée constamment. Il y a d'abord eu leur premier album en 1997 qui s'appelait Homework et qui est très électro, très dance. Alors c'est cet album, on l'entend, qui marque le début de la French Touch, avec aux côtés des Daft Punk des artistes comme Étienne de Crécy, Justice. Mais alors leur deuxième album Discovery, sorti 4 ans plus tard, est plus pop, il est plus disco, et il y a dedans cet immense tube One More Time. Pendant leurs 28 ans de carrière, les Daft Punk collaborent avec de nombreux artistes. Outre Pharrell Williams et Nile Rodgers, il y a eu Julian Casablancas, des Strokes, Michel Gondry aussi. Et ils en inspirent évidemment, comme Kanye West qui utilise leur tube Harder, Better, Faster, Stronger dans l'une de ses chansons.
Oh.
long I've been on ya.
Ouais, c'est presque un sample, c'est un hommage, c'est un hommage très évident. Ouais.
Oui, et permettez-moi Philippe de terminer avec l'une de leurs dernières collaborations. Les Daft Punk ont fait deux chansons avec l'un des artistes canadiens les plus connus et qui a notamment explosé cette année avec son album sorti au premier confinement, c'est The Weeknd.
Eric Emmanuel Schmidt, je vais arriver à le dire. Ça vous émeut, ça vous touche, ça vous fait quelque chose, non?
Oui, c'est bon.
Déjà, vous venez d'apprendre qu'ils étaient séparés. Déjà, c'est quand même une grosse, grosse info.
On pourrait en parler hein ce soir à la maison.
En fait, j'apprends tout trop tard qu'ils sont et que leur musique, elle est bien, finalement.
Il est beau tard que jamais.
Mais évidemment, merci beaucoup, Angèle. On va entendre Daft Punk en entier, quand même.
Oui, évidemment. Voici donc leur tube Around the World sur Europe 1.
C'était Daft Punk sur Europe 1. Dans un instant, notre deuxième indispensable avec Margot Barallon qui va nous faire découvrir une nouvelle série d'animation pour adultes complètement déjantée.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média. 9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie d'Éric Emmanuel Schmidt qui écrit beaucoup de fiction, qu'on a même réalisé, certains de vos romans sont devenus des films et même certains réalisés, Éric Emmanuel Schmidt, par vous-même. Bonjour Margot Barallon.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
On va parler de fiction mais non pas d'un film. Aujourd'hui, c'est le jour choisi par la plateforme Disney Plus pour lancer un nouveau service. Il s'appelle Star, ce service. Il propose encore plus de films et plus de séries. Et justement, il y en a une qui vous a tapé dans l'œil, Margot.
Oui, ça s'appelle Solar Opposites et c'est une série d'animation, mais à réserver aux adultes. Alors l'histoire, c'est celle de 4 extraterrestres, 4 et demi même, puisqu'il y a un petit bébé. Et leur planète a été complètement détruite. Ils ont réussi à s'enfuir à bord d'un vaisseau. Sauf que pas de bol, ils se sont crashés sur la Terre, dans une banlieue américaine typique. Alors
au début de l'histoire, ça fait un an qu'ils essaient de réparer leur vaisseau. Et en attendant de pouvoir repartir, ils sont bloqués et bien obligés de s'adapter à la vie avec les humains. Et alors ça ne plaît pas. Mais alors pas du tout à Corvo, qui est un peu le leader de la bande.
This is ridiculous. I hate Earth. It's a horrible home. And one of these days I'm gonna blow it up and just be done with the whole stupid thing. I swear to God.
Je déteste la Terre, c'est une maison horrible et un jour je vais juste la faire exploser pour en finir.
Voilà
en
ce fait, qu'il dit.
Voilà. En fait, nos extraterrestres se divisent en deux catégories. Il y a donc Corvo et Yumiola qui détestent les humains et Terry et Jessie qui, au contraire, sont très curieux et aimeraient bien vivre en parfaite harmonie avec eux.
Et Margot nous avait dit en préambule que c'était une série pour adultes. En quoi est-ce une série pour adultes ?
Alors parce que d'abord c'est vulgaire, c'est violent, il y a du sexe aussi et ouais. surtout c'est vraiment un monument d'humour cynique.
J'adore votre définition d'adulte, vulgaire, violent, sexe.
Et cynique.
Et cynique, surtout cynique. Alors en réalité, ces extraterrestres, c'est un peu un prétexte pour jeter un regard extérieur sur la société américaine, souligner tous ses défauts, toutes ses dérives. Par exemple, ils sont très sensibles au fait que la planète Terre va mal, qu'elle est polluée, c'est entre autres pour ça qu'ils la détestent. Et ça ne les empêche pas de vouloir à tout prix acheter des trucs inutiles pour ressembler aux humains. Ils vivent dans une banlieue où tout le monde s'épie, se déteste avec des règles de stationnement complètement débiles. Et finalement, il y a toujours un sous-texte voilà, très adulte dans cette série, y compris sur des choses un peu plus politiques que les règles de stationnement. Par exemple, dans le premier épisode, Yumiolak et Jessie, qui sont des jeunes extraterrestres, donc ils vont à l'école, ils se font convoquer dans le bureau du principal, et qui les a dans le collimateur pour une faute qu'ils n'ont pas commise. Et voici ce que répond Yumiolak.
You're just blaming us because we're aliens.
Vous nous tenez pour responsables parce que nous sommes des aliens. Sauf que, en anglais, le mot aliens, ça a un double sens. Ça désigne des extraterrestres, donc, mais aussi, tout simplement, les étrangers.
Et avec tout le débat qui anime l'Amérique en ce moment.
Exactement. Et tout l'enjeu voilà, de la série Solar Opposite, c'est ça, c'est la société américaine face à l'immigration, à l'altérité. Je ne vous spoil rien en vous disant que le constat est très très sévère dans la série.
Et alors, est-ce qu'il y a beaucoup de séries d'animation pour adultes, cyniques, vulgaires, avec du sexe dans le même genre ?
Bah oui, énormément. C'est quand même un genre qui a vraiment percé avec les Simpsons à la toute fin des années 80, 1989. Souvenez-vous, les Simpsons, déjà, ça parlait quand même beaucoup de politique.
Ouais.
Il y a eu South Park ouais. aussi, ah oui. dans le genre très très trash.
Que j'adore.
Voilà. Et bien, Solar Opposites, on la doit aux créateurs d'une autre série d'animation qui connaît un grand succès sur Netflix, Rick et Morty. Si vous avez déjà vu Rick et Morty, vous reconnaîtrez leurs pattes, leurs dessins, leur humour aussi. Si vous y êtes sensible, évidemment, allez regarder les 8 épisodes de Solar Opposites, vous allez adorer. Et si vous ne connaissez pas, je trouve que c'est une excellente occasion de s'y mettre.
Merci beaucoup Margot Barallon, vous étiez très intéressée. Davantage que pour Daft Punk, ça vous a plu ?
Oui, moi je regarde les séries, parce que j'adore qu'on me raconte des histoires, et puis je trouve que les grands talents aujourd'hui s'investissent dans la série, beaucoup plus qu'au cinéma d'ailleurs.
Et je ne sais pas comment vous posez la question, sans être inconvenant, après ce qu'a raconté Margot Barallon, est-ce que vous regardez des séries pour adultes ?
Oui, docteur.
Cette série-là, Solar Opposite, disponible à partir d'aujourd'hui sur Disney+. Merci beaucoup Margot Barallon, et je précise que pour les adeptes de séries d'animation, le podcast Sériland, on lui consacre un épisode entier. On se retrouve dans un instant, c'est la dernière partie de Culture Média, toujours en compagnie d'Éric Emmanuel Schmitt. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie d'Éric Emmanuel Schmitt, Paradis perdu, c'est une aventure unique. C'est le premier roman d'une octologie, ça veut dire qu'il y aura 8 tomes. Ça s'appelle La traversée des temps, c'est chez Albin Michel, votre éditeur traditionnel. 3 personnages immortels qui vont revenir de livre en livre. Vous travaillez sur ce projet, ai-je découvert en préparant cet entretien, depuis que vous avez 25 ans. Comment est né ce projet dans votre tête et ensuite sous vos doigts ?
Bon, d'abord, il faut vous dire que moi, j'ai aimé lire et j'ai aimé la littérature parce qu'à 8 ans, j'ai lu Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, j'aime à la fois le romanesque et j'aime aussi découvrir l'histoire à travers les romans. Et je trouve, je sortais de mes études, normal sup, agrégé de philo, docteur, tout ça. J'enseignais à la fac et j'ai eu cette idée d'un personnage immortel qui traverserait les temps, qui nous les raconterait et qui en serait à la fois le témoin et l'acteur. Mais J'étais capable d'avoir l'idée à 25 ans, mais j'étais incapable de réaliser cette idée. Il a fallu que je prenne possession de mes moyens romanesques, de mes moyens d'écrivain, et puis surtout que je travaille parallèlement à tout ce que je faisais pendant des années pour avoir la culture scientifique, philosophique, religieuse nécessaire pour écrire cette histoire.
Mais comment ça se passait ? Vous aviez des fichiers, des notes, un classeur avec indiqué la traversée des temps ? Ou est-ce que tout vient de votre tête et vous êtes mis à travailler sur ce roman récemment, ou est-ce que parfois, par petites touches, vous avez déjà agrégé du contenu ?
Oui, alors il y a un mélange. Je suis assez asiatique dans mon travail de la mémoire, c'est-à-dire que je prends très peu de notes. Je fais confiance à mon cerveau, je me dis si j'oublie, c'est que je dois oublier. Ouais. Donc c'est vrai que c'est dans mon esprit que les fiches se sont faites, mais parfois, sur des points précis, je faisais des fiches sur mon ordinateur pendant des années, qui sont passées d'un ordinateur à un autre, d'un système à un autre. Et j'ai refusé toujours d'avoir un collaborateur ou une collaboratrice, un archiviste.
Parce que souvent, je précise, les romanciers se font aider par quelqu'un qui fait la documentation,
oui,
qui fait pas
ça.
Le récit. Mais...
Et ça, j'ai jamais voulu, d'abord parce que j'ai été formé à faire ça, et ensuite parce que je voulais pas dépendre d'une erreur qu'aurait fait quelqu'un. Si j'ai fait une erreur, c'est moi qui l'a fait. Et puis surtout, je pense que c'est la meilleure manière de préparer une telle entreprise, c'est de passer des heures à écumer les livres et les bibliothèques.
Où en êtes-vous ? Parce que Albin Michel annonce déjà les 7 prochains tomes, je vais les citer en prenant mon souffle auparavant. Ensuite, il y aura Babel et la civilisation mésopotamienne. Ensuite, l'Égypte des pharaons et Moïse. 4e tome, la Grèce antique. 5e, Rome et la naissance du christianisme. 6, l'Europe médiévale et Jeanne d'Arc. 7, la Renaissance et la découverte des Amériques. Et enfin, 8, les révolutions politiques, industrielles, techniques. Vous en êtes où ? À part la trame, qu'est-ce que vous avez déjà rédigé ? Et à quel rythme ces tomes vont-ils sortir ?
Alors moi, j'ai fait une trame de 5000 pages. Quand même, ouais. Pour 5000 pages en tout cas, avec des rebondissements et des surprises jusqu'au bout, y compris sur les personnages qui vont rester, un découpage historique. Moi, je suis en train d'achever l'écriture même du 2e tome.
D'accord, donc vous êtes à la page 1000 à peu près.
Oui, c'est ça.
D'accord, et il y en aura un par an, comment ça va se passer ? Il y en aura un à chaque rentrée de
c'est
décembre.
Le rêve de mon éditeur, c'est peut-être le mien aussi, mais si jamais ça me prenait plus de temps. Mais vous savez, plus on va se rapprocher de l'époque contemporaine, plus ça sera facile pour moi, quand je suis rentré à l'école normale supérieure, je suis rentré en lettres classiques. Donc, par exemple, la culture grecque, la culture latine et aussi la culture judaïque, c'est des choses que je possède. Donc, plus on se rapproche dans le temps, plus c'est facile. La difficulté, c'était le premier tome et le deuxième tome, c'est-à-dire 8000 ans, et puis ensuite la Mésopotamie.
En travaillant sur une période, une immense période qui s'étale sur 8000 ans, est-ce que certains moments de l'histoire vous ont semblé plus doux, plus désirables, plus enviables ? Pour dire les choses différemment, si vous aviez le choix de choisir la date de votre naissance, ça serait quand ?
Non mais très sincèrement, ma grande surprise, ça a été de découvrir qu'au néolithique, j'aurais été bien. Parce que j'adore ce rapport à la nature profond. J'adore l'autosuffisance qu'avaient nos ancêtres. Un homme, à l'époque, savait tout ce que savait faire un homme. Faire du feu, coudre, choisir les bons aliments, chasser, etc. On était dans le temps du savoir partagé. Aujourd'hui, on s'est tellement spécialisé qu'on est surtout dans le temps de l'ignorance partagée.
Bien sûr.
Je ne sais même pas faire un feu.
Oui.
Donc, je me rends compte que... Et en plus, ce rapport à la nature qui est un rapport harmonieux... intégré, où il n'y a pas de supériorité humaine. C'est d'ailleurs quelque chose qui nous traverse fugitivement. De toute façon, le paradis nous traverse toujours fugitivement. Quand on se promène en forêt, tout d'un coup, on peut avoir ce sentiment d'être au milieu de vivants, de sentir les âmes des choses, la force des choses. Donc, je crois que les modes de pensée de nos ancêtres, les modes de pensée antérieurs qui ne sont plus les nôtres, sont capables de nous retraverser dans des expériences de vie, dans la poésie et dans la littérature.
Qu'est-ce que c'est joliment dit, Eric Emmanuel Schmitt, ça s'appelle Paradis perdu, avec une belle illustration, oui. Complètement fictive évidemment, puisque vous faites cohabiter des lions et des tigres, alors qu'ils n'ont jamais vécu ensemble.
Bien sûr, c'est un magnifique tableau du 19e siècle.
Merci beaucoup Eric Emmanuel Schmitt, Paradis perdu, premier tome d'une série d'8, La traversée des temps chez Albin Michel, et on vous retrouve souvent le vendredi dans Rep Soir, 18h-20h avec Isabelle Millet pour votre carte blanche. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe, en prenant l'escalier. Nous on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On va faire une semaine spéciale agriculture française pour l'émission La Quotidienne de France 5. Enfin, c'est eux qui la font et c'est nous qui les recevons. Nous serons avec les présentateurs Maya Loquet et Thomas Hill et puis la chanteuse de jazz Mélodie Gardot. On va parler de son album Sunset in the Blue qui est déjà un succès en tête des classements jazz. Merci, bonne journée sur Europe 1. Je vous dis à demain. Salut à tous.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs? Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor? Vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires?
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.